Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai intitulée « Le 11 novembre en basse marche ». Outre les documents du centenaire de la guerre 14-18, j'ai pour l'essentiel utilisé deux ouvrages. Marceline et les autres, Conte de la Gartempe de Jean-Claude Vignaud, qui consacre une grande partie de son ouvrage à la guerre, à la croix sur Gartempe. Et Carnet de campagne 1915-1920 d'Honoré Jean Champcommunal.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Oh par Dieu, c'est pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur.
Le 11 novembre 1918, à la croix sur Gartempe. Le 11 novembre, quand le maire porte au curé la nouvelle de l'armistice et que les deux hommes essaient, en faisant sonner la cloche de l'église, d'oublier tout ce qu'ils viennent de vivre, en s'accrochant comme des gosses les jours de fête à la grande corde qui se perd là-haut dans le clocher, ils ne sont pas sûrs, l'homme de Dieu et celui de la République, de bien faire la différence entre glas et carillon. Trop peu d'hommes vont revenir. Aucun ne sortira intact de cet enfer. À côté des gazés, qui ne sauront plus jamais ce que signifie respirer à plein poumon l'air du matin, que le moindre effort physique transformera en être fragile, arrêté par la première gelée ou la moindre goutte de pluie, il y a les mutilés qui, comme Adolphe Parpex, devront patiemment apprendre à devenir gauchers, et les autres qui, bien sûr, sont heureux de pouvoir remettre les pieds dans leurs sabots, de retrouver une épouse, des enfants, ou de découvrir la petite fille devenue grande et qui voudra bien devenir leur femme. Mais comment effacer le cauchemar, le bruit, la ferraille, la boue, des rats, l'odeur de pourriture, de mort? Comment ne plus se réveiller la nuit en nage? Comment ne pas sauter hors du lit au moindre bruit? Les cicatrices du corps sont plus vite effacées que celles de l'âme. Surtout chez nos paysans qui parlent peu et qui ne retrouvent pas comme leurs compagnons des villes des anciens combattants avec qui parler pour essayer d'évacuer cette douleur. Il y a aussi toutes ces femmes sans cesse croisées que l'on n'ose pas regarder en face, comme si on avait honte d'être encore vivant. Ne l'oublions jamais, le 11 novembre 1918, le village n'a pas chanté, n'a pas dansé. Il s'est replié sur lui-même et il a pleuré. Il a pleuré ses morts, il a pleuré sa mort. C'était bien un monde qui s'achevait et il n'était pas sûr du tout que le monde qui allait lui succéder lui laisserait suffisamment d'espace pour vivre. La guerre avait eu raison des paysans de France qui s'étaient accrochés à leurs terres et n'avaient montré qu'un faible enthousiasme pour l'appel de la grande ville et de l'industrie triomphante. Restait à édifier ce monument aux morts devant lequel des générations viendraient se recueillir, auquel on ajouterait encore quelques noms plus tard, des noms que lirait à haute voix chaque 11 novembre un écolier, des noms qui ne seraient plus prononcés une fois la dernière classe fermée, qui verraient leurs ors s'effacer et qui ne voudraient plus dire grand-chose, qui n'auraient plus de visage, mais qui nous aideraient à faire notre deuil d'un village à jamais disparu.
Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Nous avons écouté Catherine Sauvage nous interpréter le poème d'Aragon « Tu n'en reviendras pas », puis Jean-Claude Vigneault qui, dans son ouvrage « Marceline et les autres », nous parlait du 11 novembre 1918 à La Croix-sur-Gartempe. Les célébrations du centenaire de la Grande Guerre ces dernières années nous ont donné moult informations sur le premier conflit mondial. Dans cette courte émission, nous voulons très simplement donner quelques éclairages sur ce qui se passa chez nous en Basse-Marche après l'armistice de 1918, qui fut, vous le savez, signé dans le wagon-restaurant du train installé dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. En fait, c'est le traité de paix de 1919, dit traité de Versailles, qui mettra fin à la guerre. Je veux simplement rappeler des éléments du bilan de cette guerre qui fera plus de 8 millions de morts. Pour la France, 1,3 million de morts, ce qui représente 10% de la population masculine, 4 millions de blessés, 3 millions de morts par la grippe espagnole. Il faudra d'ailleurs attendre 1950 pour que la France retrouve sa population de 1914. Le bilan, c'est aussi 177 milliards de francs hors de dépenses de guerre. Un Français sur 10 pensionné suite à la guerre. Un pays en crise démographique, en crise industrielle, en crise économique, en crise financière.
Salut les gars, comment ça va? Ne fais donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur. Pour oublier ma douleur. Je pensais lui dire, je t'aime à mourir, mais je ne peux plus sourire.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Notre région aura donné une lourde contribution à l'effort de guerre, comme l'on dit. C'est ainsi qu'entre le 5 août 1914 et le 23 décembre 1919, on comptera 14 064 morts originaires de la Haute-Vienne. Cela représente plus de 4% de sa population. Alors quelques chiffres au hasard concernant nos petites communes rurales de la Basse-Marche. 30 morts sur 781 habitants à Darnac, 29 sur 631 à Saint-Martial-sur-Isop, 74 à Nouic, 30 à Saint-Sornin-la-Marche, 16 à Tersanne, 21 à Saint-Martin-le-Mau, c'est plus de 5% de la population, 54 à Azalery, 22 à Villefavard, 36 à Cromat, 41 à Berneuil, 68 à Saint-Léger-Magnézet. Grâce à Jean-Claude Vigneault, nous allons mettre des noms sur les 18 morts pour la France, comme on dit, de la toute petite commune de La Croix-sur-Gartempe. Au front, écrit Jean-Claude Vigneault, les hommes ont reçu des cartes et du papier à lettres. Ils bénéficient de la franchise postale. Mais certains ne diront rien, n'écriront jamais. Dès le 28 août 1914, Pierre Bilbao, Pierre Guénon, François Roy et Honoré Semavoine sont tués. Leurs corps abandonnés sur le champ de bataille trouveront une sépulture au gré de l'avancement ou du recul des troupes. Ainsi, certains seront enterrés par leurs camarades, d'autres par les Allemands. Mais pendant 6 ans pour leur famille, le doute subsistera. Et ce n'est qu'en août 1920 que le tribunal de Bellac déclarera constant leur décès. Et il ajoute « D'autres n'auront guère le temps de se manifester ». Jean Lagrange meurt le 10 septembre. Ce même jour, Gabriel Guillon va disparaître. Le soldat Guillon est disparu sans laisser de traces, puisqu'il n'est pas paru à l'appel. Le 17 septembre, Jean Balisse a été tué. Il avait 40 ans. Jean Vigneault avait eu de la chance. En mars 1916, il revient au pays pour une permission. Il retrouve sa femme et ses 2 enfants. Mais ce n'était qu'une permission. Le 19 juillet 1916, Jean Vigneault, soldat au 90e territorial, immatriculé sous le numéro 8005, meurt au combat. En juillet 1917, le 18, c'est Joseph Savignat qui tombe à 7h30 dans la Marne. Il avait 36 ans. En 1918, le caporal François Bonin et le sergent Louis Perrault vont mourir. Ils avaient 23 ans. Et Jean-Claude Vigneault de nous parler aussi de ceux qui reviennent au pays estropiés, gazés ou malades.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civelots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est pas fini. C'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crapaud sur le plateau, on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Vous ne serez bientôt qu'un mot d'or sur nos places, dit le poème d'Aragon. Triste consolation. Après la guerre, on va construire des monuments aux morts. Mais souvent, bien longtemps après l'armistice. En novembre 1922, à Château-Ponsac, pour celui du cimetière. En mai et septembre 1923, à Arnac-la-Poste, à Château-Ponsac ou à Bellac. En novembre 1924, à Saint-Sulpice-les-Feuilles. En octobre 1929, au Dorat. En septembre 1933, à Touron. Et en septembre 1935, à Sieux. Le plus grand nombre de ces monuments est sur le style de celui de Bussière-Poitevine, des obélisques, des colonnes sur socle avec palmes, boulets de canon et souvent un entourage avec des obus et des chaînes. Certains de ces monuments possèdent des coques. C'est le cas à Saint-Sulpice-les-Feuilles, à Comprignac, à Montreuil-Sénart, où il provient de la fonderie du Rennes. Bien sûr, on trouve aussi un grand nombre de soldats, des poilus, souvent avec baïonnette au fusil, à Arnac-la-Poste, à Azalerie, à Blanzac, à Saint-Hilaire-la-Treille, à Saint-Aignan-de-Versilla, à Château-Ponsac, où il est l'œuvre du sculpteur Léonce Boirleau, à Saint-Pardoux, où il fut réalisé par le sculpteur Charles-Édouard Richefeu. Le monument du Dorat est original, c'est une femme ailée devant une lanterne des morts, œuvre du célèbre sculpteur François Couteillas. François Couteillas est aussi le sculpteur de la Limousine de Bellac. Alors précisons que ce sculpteur est né à Limoges en 1862, où il mourut en 1928. Il est l'auteur de nombreuses sculptures des jardins publics du Limousin, le chêne et le roseau du jardin d'Orsay à Limoges par exemple, et de plusieurs commandes du musée du Louvre. On trouve 2 autres limousines ou bergères en cap, à Sieux et à Touron. On doit ces 2 œuvres à une sculptrice, ce qui est fort rare, Yvonne Gendron.
On a fait des valses de bien des couleurs, des bleus, des blancs, des roses. Moi j'en connais une qui rend de bonne humeur lorsque l'on est morose. Elle n'est pas verte, elle n'est pas lilas, mais j'adore sa nuance. Vous apprendrez tous cette valse-là, elle fut faite en France. On la chante quand on voit crânement défiler nos jolis régiments. C'est la valse bleue horizon qui vous fait passer des frissons. Valse guerrière, glorieuse et fière, nos soldats le cœur plein d'entrain, sous le feu narguant le destin, la chante au son du canon, la valse bleue horizon.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Après la guerre, à l'automne 1919, le Conseil des ministres décide d'organiser les élections et d'abord celle des députés. Ce sera le 16 novembre 1919. C'est le Bloc national qui gagne ces élections. Cela conduira à ce que l'on appelle la Chambre bleue horizon, ce qui explique la chanson que nous venons d'écouter. C'est une coalition rassemblant la droite et une partie du centre qui est la continuation de la fameuse Union sacrée. Elle s'appuie sur le patriotisme, voire le nationalisme, l'application stricte, on pourrait même dire revancharde, du traité de Versailles. Le slogan dominant, c'est « l'Allemagne paiera ». L'idée est même parfois d'aller jusqu'à l'humiliation de l'Allemagne. C'est aussi la lutte contre le syndicalisme, les ouvriers, les communistes. C'est ce parti qui fait publier la fameuse affiche de l'homme au couteau entre les dents. Alors parmi les leaders de ce bloc national, on trouve par exemple François de Vindel, qui est le président du comité des forges, Pierre Tétinger, un industriel qui sera le fondateur du groupe fascisant des jeunes patriotes, l'écrivain Maurice Barrès, des militaires plus ou moins anti-républicains comme le général vicomte de Currières de Castelnau. Et très vite, la France s'installe dans une crise politique et une crise sociale. Nous allons écouter la vie d'un ancien combattant, Honoré Jean Champcommunal. Honoré Jean Champcommunal, qui vivait dans la région de Saint-Sylvestre, fut mobilisé en avril 1915 à 19 ans. Il a écrit un extraordinaire document, ses carnets de campagne de 1915 à 1920. Voici quelques extraits des dernières pages de son carnet. On oublie ce qui vient de se passer pendant 5 années. On oublie déjà qu'on a juré de se battre pour que ce soit la dernière des guerres. Qu'on s'est promis au jour sombre, ou couvert de boue et de sang, dans le faible espoir de voir la fin, qu'au jour de la paix, le soldat ferait tout pour éviter le retour de semblables catastrophes. Et que fait-il tendant à ce but ? Rien. Il oublie ses engagements, l'ancien soldat. Et le pire, c'est qu'il vient d'envoyer siéger à la Chambre, pour représenter ses droits et ses intérêts, des généraux. Élire députés des abbés passe, mais des soldats. Voter pour des généraux, je ne les comprends plus. La guerre tue le militarisme, dit-on. Elle ébranle son prestige chez le vaincu. Mais elle